Muito bem. Nós abrimos, então, nesse momento, para se as pessoas tiverem perguntas, quiserem fazer alguma observação, discutir alguma coisa, a palavra está aberta. Vamos usar o microfone para gravação, tá bem?
Merci beaucoup pour votre conférence. Elle a été très inspirante. D'ailleurs, comme vos livres aussi. Je voudrais vous demander petite précision. C'est pas bon. Je n'ai pas très bien compris. Quand vous aviez dit que c'est la phénoménologie d'être dans le monde avec les objets, dans ce sens-là, et pas des sensations, des sensorialités. Est-ce que la sensorialité joue encore un rôle dans ces concepts de phénoménologie? C'est plutôt dans ce côté-là. Quand on pense à la situation d'être dans le monde avec... dans le monde, comment voyez-vous la sensorialité?
Oui.
Merci.
Mais c'est-à-dire la sensorialité, bien sûr, on ne fera jamais abstraction de cela, mm-hmm. mais le problème, c'est que dans les approches classiques, aussi bien en philosophie, en esthétique, en sémiotique, hein, on a toujours donné un certain privilège à un seul sens, notamment la vision. Hein? C'est-à-dire qu'on parle de sémiotique visuelle. J'ai trouvé ça toujours scandaleux. Hein? On aurait dû dire sémiotique des sens, sensoriel, je ne sais pas quoi, visuel. C'est toujours l'image. Et bien sûr, notre monde, toute notre culture contemporaine va dans la même direction. Hein? On est partout entouré d'images. C'est tout. Hein? C'est très important. C'est très, très embêtant aussi pour l'éducation des jeunes et tout ça. Qu'on ne parle que d'images. Et on donne donc une énorme priorité, un énorme privilège à la vision. Hein? Donc toutes les sémiotiques qui sont construites autour de ce privilège de la vision, pour moi, doivent être dépassées. C'est pour ça que moi, je parle facilement et de toujours hein, du point de vue haptologique. C'est une autre hiérarchie des sens. Si on organise les cinq sens, non pas autour de la vision, mais autour du toucher, hein? C'est une autre tradition en philosophie d'ailleurs. Il y a des philosophes esthéticiens qui ont fait ça, mais qui n'ont jamais eu de succès avec ça. Comme par exemple Herder. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Le philosophe Herder, philosophe allemand, qui était contemporain de Kant, lui, il défendait ce point de vue haptologique. Contre Kant et contre les esthéticiens, il n'a jamais eu de succès. Personne ne connaît même ça. Donc, tout d'abord, c'est ça. Donc, la première chose, c'est réorganiser la hiérarchie des cinq sens et de ne pas donner des privilèges extrêmes à la vision. Alors, ça change, il y a beaucoup. Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi un peu ce que Merleau-Ponty, même déjà, dans sa conception de la perception, hein, même dans le chapitre fameux sur le sentir, dans la phénoménologie de la perception, il insiste là-dessus. Hein. La plupart des gens n'ont pas vu ça. On parle en général de perception, on parle de perception, c'est ça, c'est avec les yeux qu'on perçoit les choses. Hein, ça, c'est intuitivement presque, on pense ça. Ça, il faut un retournement, si vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça. Le phénomène, ce terme de phénomène que Husserl a tellement bien développé à la fin de sa vie, hein, c'est contre le privilège de la perception visuelle. Hein. Le phénomène, c'est par exemple le froid. Hein. On est dans l'autre, l'extérieur, moi je l'appelle ça plutôt l'autre majuscule, pas l'extérieur. L'autre majuscule, on est dedans, on a froid. Qu'est-ce que c'est quoi? Il n'y a rien de visuel à ça. Hein? C'est un sentiment existentiel extrêmement fort. Et Merleau-Ponty savait cela. Hein? Et c'est pour ça, dans le visible et l'invisible, le dernier Merleau-Ponty, il faut toujours lire le visible et l'invisible ensemble avec le second, avec le chapitre sur le sentir, pour savoir ce que veut dire le toile de fond phénoménologique de la sémiotique. Ça, c'est déjà une première chose, c'est déjà beaucoup. Hein?
Esse texto é o que a gente vai traduzir? Bom, questão para o traducteur. Nós vamos traduzir esse texto para a revista, para S, né? Para S? Ou para casa? Bom, enfim. Vous avez parlé de Petitot, morphologie et esthétique et morphogenèse et esthétique. Et il y a une différence d'orientation théorique dans ces deux types de positions de Petitot.
Oui.
Bon. La deuxième, c'est que j'ai vu dans la référence bibliographique que tu as parlé, que tu as mentionné corps et sens de Fontani, mais tu as parlé de soma et sema,
oui.
Que de soma et sema.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelques restrictions sur corps et sens, parce que c'est une deuxième version,
oui.
Un peu changée, etc.
Ben oui.
C'est ma curiosité.
Oui, oui, oui. De tout d'abord avec. Hein, Tu sais que la sémiotique contemporaine n'est pas une sémiotique des signes, hein, mais est une sémiotique du sens, hein, de la signifiance plutôt. Donc, c'est pour éviter le terme de sema. Sema, en grec, veut dire signe. Hein, donc, il a raison de remplacer sema, signe. Hein, c'est une vieille sémiotique, ça, la sémiotique des signes. Ça n'a rien de grémassien chez Grémas. Comme tu sais, il refuse le terme de signe dans sa sémiotique. Hein? Il s'agit du sens. Hein? Donc, et c'est pour ça que Fontani, à un certain moment, il a commencé à hésiter d'utiliser le terme de sema. Parce que le sema, c'est le signe. Il remplace par sens. Mais c'est la même chose. Hein? C'est la doctrine qu'il développe, c'est-à-dire cette centralité de la corporéité, est dans les deux. C'est la même chose. C'est simplement une prudence, si vous voulez, pour bien comprendre la tendance sémiotique là-dedans qui remplace sema par sens. Ça, c'est clair.
Oui? Même soma par corps.
Oui, mais ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Mais parce qu'il tombe sur le terme de sema. Après coup, sans doute qu'il y a eu des critiques ou quoi, je ne sais pas quoi. Alors, il change en sens. Et pour ça, il a changé l'autre terme d'encore, mais c'est équivalent. Là, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un peu, ça a marché comme ça, je crois. Hein?
Oui, je pense que soma, c'est plutôt à une connotation beaucoup plus biologisante que corps. Donc, c'est-à-dire corps, ça peut aller bien plus confortablement avec la phénoménologie, etc.
Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas en grec, sema, s'il y a une connotation biologique, je ne sais pas.
Non, soma.
Soma, oui, je veux dire. Ça, je ne sais pas, justement. Alors, pour Petitot, qu'est-ce que je mentionne? Montre-moi une fois ce que je...
La morphologie.
Morphologie esthétique. Oui, ça, c'est le bouquin de Maisonneuve et... Oui, le bouquin de 204... avec les essais sur... oui, tout ça, tous ces gens-là. Mais il utilise, mais c'est la même chose, je ne crois pas que c'est un problème, là. Morphologie, en fait, la morphologie est une doctrine, est une théorie de la genèse des formes. Hein? C'est pour ça que morphogenèse est mieux que morphologie. Le grec, logos, veut dire science de la forme. Morphologos, hein? La science du... Hein? quand on parle de morphogénèse, c'est génèse des formes. Et c'est, plus, c'est l'idée de bildende Kraft chez Goethe. Hein? C'est une Kraft, c'est une genèse, c'est une energeia, hein? C'est un dynamisme. Ce n'est pas une structure stabilisée, si vous voulez. Hein? C'est une structuration. Ça, justement, vous savez, il y aura au mois de mai, là, une grande affaire à Paris à propos de Grémaz, à l'UNESCO, hein, où il parle de l'avenir de la structure. Ça, c'est le thème de... Hein. Moi, j'ai proposé un sujet sur la structuration. Hein, c'est-à-dire, l'avenir de la structure est dans la structuration, justement. C'est le même mouvement de pensée. Hein. Donc, il faut aller, donc, vers une théorie du dynamisme de structurer. Qu'est-ce que c'est que de structurer et de créer une dialectique d'une structure structurante et une structure structurée. C'est totalement différent. Et là encore, pour cette question de la structure, on trouve chez Grémas un texte caché. Moi, je sais où il se trouve. Je n'ose presque pas le dire, c'est mon secret. Il se trouve dans du sens 2, quelque part. Vous pouvez aller chercher où il parle de la structuration parallèle. Et pour moi, c'est un ciel qui s'ouvre, cette notion de structuration parallèle. C'est une mise en question de tout structuralisme fixiste, stabiliciste, si vous voulez. Hein? Cette notion de structuration pareille. Donc, pour morphologie, c'est un peu la même chose. Petit O, comme c'est un Goethien 100%, lui, qui est passé par René Thom, bien sûr, etc., par le formalisme mathématique et tout ce qu'il veut, pour lui, il s'agit de la morphogénèse, pas tellement d'une doctrine des formes, hein, qui peut être encore très géométrique, si vous voulez, purement géométrique, hein, mais de la morphogénèse, comment croissent, comment naissent les formes. Hein, comment naissent les formes, si vous voulez, à partir de cette corporéité, dans ce corps, et dans cette phénoménalité où notre existence participe, si tu veux, oui. C'est comme ça que je parle, plutôt. Donc le terme, c'est, va dire, tu m'as convaincu avec les conversations qu'on a eues là-dessus, tu me fais faire un peu abstraction dans mon discours du terme de perception. Tu m'as tellement critiqué là-dessus, et tu as raison sans doute. Et je préfère de loin maintenant phénomène. Donc le toile de fond de la phénoménologie, c'est l'accent sur le phénomène. Plutôt que sur la perception, je pense, hein, mais il faudrait qu'on continue la discussion là-dessus.
Bon, pardon pour mon français, il n'est pas terrible, mais je voudrais savoir si vous connaissez ou si vous voyez quelques possibilités de carrefour entre la sémiostatique et l'ethnologie, surtout.
Ethnologie, oui.
Surtout parce que des fois on tombe sur d'autres perceptions du corps et. Il y a aussi des études d'art verbaux qui utilisent beaucoup le mélange entre le mouvement du corps et la verbalité de ces arts-là, de différentes ethnies.
Oui, je vois, c'est une très bonne question. Hein? C'est-à-dire que la manière dont on vit notre corps, c'est bien sûr déterminé aussi par notre culture. Ça, c'est clair. C'est une question qu'on peut poser à n'importe quel modèle sémiotique. C'est-à-dire, le degré de relativité de cela selon la culture. Comme la sémiotique en général est universalisante, c'est un modèle un peu universel, hein? Il faut toujours faire attention dans la sémiotique pour ne pas devenir trop universalisant et tenir compte justement de ça. Mais je suis tout à fait d'accord que la culture rend le sentiment du cœur, rend le phénomène du cœur, même au sens phénoménologique, rend relatif à la culture ou à la microculture, même à une microculture. Hein? C'est un sérieux problème pour la théorisation. Hein? Donc il faudrait presque, dans chaque théorie, avoir une composante universalisante et une conception et une composante particularisante. Hein? Et une dialectique entre les deux. Hein? Donc, dans ce sens-là, l'anthropologie est importante, ou l'ethnologie, ou l'anthropologie est importante, justement, pour nous enseigner sur la diversité des conceptions du cœur et surtout du sentiment du cœur. Comment est-ce que les gens, les différentes cultures, ont un autre sentiment de leur cœur? Hein? Je suis tout à fait d'accord. Donc, ou bien nous autres, bien sûr en sémiotique et en philosophie en général, c'est toujours l'accent sur l'universalité, hein, la notion universelle de quelque chose. Mais tu as tout à fait raison pour dire qu'il faut mettre ça en dialectique avec la relativité de ces notions selon les cultures. Bon. D'accord, je suis d'accord, mais moi personnellement, je n'ai peu de choses à dire dans ce domaine. Qu'est-ce que tu veux? Toute ma vie, j'ai été philosophe, donc on est du mauvais côté pour ça.
Merci. Toute petite question. Donc on dirait, à partir de ces apports morphologique à un moment donné, en particulier à partir des apports d'un Jean Petitot, de Brandt et d'autres sémioticiens qui se sont investis à fond dans cette morphologisation de la théorie sémiotique, de ces points de vue au sujet de l'esthétique et de l'esthésique, puis après, suivi de ce qu'on a pu appeler un phenomenological turn de la théorie sémiotique, on en a beaucoup parlé. Eh bien, si on admet que la sémiotique se retrouve considérablement métamorphosée après ces différents apports, qu'en est-il de la pratique descriptive et méthodologique? Dans quelle mesure est-ce que, à ton avis, les pratiques descriptives, les pratiques d'analyse de la sémiotique ont ou n'ont pas suivi les métamorphoses de la théorie au cours, disons, de ce dernier quart de siècle, grosso modo?
Oui. Là encore, c'est un peu une question qui est formellement un peu la même que sur les cultures. Hein? C'est-à-dire, tout d'abord, il faut distinguer entre méthode et épistémologie, entre méthodologie et épistémologie. Bon, mon discours, c'est un discours bien sûr épistémologique, pas méthodologique, hein? Mais je pense au niveau méthodologique que le mouvement va dans les deux sens, c'est-à-dire que la théorie provoque d'autres types de descriptions, hein? Le changement de théorie provoque d'autres types de descriptions, mais les descriptions elles-mêmes provoquent le changement de la théorie aussi. C'est possible qu'une certaine description exhaustive d'un phénomène, par exemple, hein, bien faite, hein, avec une certaine, non pas seulement pas critères d'exhaustivité, mais aussi les critères d'empiricité, par exemple, de plus proche de la réalité des choses, hein, qu'elle va changer la théorie. Oui, c'était le point de vue de Grémas, ça. C'est-à-dire, Hein? Keynes disait, ce que je dis, ce que moi je veux, c'est une certaine indépendance de la méthodologie à l'égard de l'épistémologie. Hein? Les théoriciens sont des gens qui nous disent comment la connaissance se fait, se construit. Ça, c'est l'épistémologie. Hein? Mais in abstracto. Tandis que les méthodologues, c'est des gens qui suivent le travail des gens qui décrivent les faits, les choses existantes. Et donc, c'est dans sémantique structurelle, c'est le problème de sémantique structurelle, justement, c'est la relation entre la méthodologie et l'épistémologie. Donc, en 1966, au début de sa carrière, est déjà existant ce problème. Hein? Mais lui, oui, il est très anti-philosophique, comme tu dis, Kerman, mais ça, c'est une anecdote, ça. Hein? Moi, j'étais le seul philosophe qu'il supportait autour de lui. Mais pour le reste, il est très anti-philosophe, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est son attitude à l'égard de l'épistémologie. De l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on construit une théorie selon les critères d'une bonne connaissance. Ça, c'est l'épistémologie. Hein? On peut faire ça en faisant abstraction du corpus, là. Hein? Mais il y a une tension entre cette attention épistémologique avec le génie méthodologique, c'est-à-dire, hein, à partir donc d'une description empirique, comment est-ce qu'on va trouver là-dedans certaines régularités, hein, qui nous permettent de changer, si vous voulez, l'objet de connaissance. C'est le sujet de sémantique structurelle. Absolument, dès le début. Et ça ne les quitte pas du tout pendant toute sa sémiotique, ça. Hein? S'il y a eu des sémioticiens dans sa suite qui n'ont pas eu la conscience de ce fait dramatique, si vous voulez, de cette tension entre épistémologie et méthodologie, hein, alors c'est devenu des fanatiques ou je ne sais pas quoi, ou des imbéciles. Hein? Mais tu as tout à fait raison, la question reste. Donc, votre question et cette question-là sont vraiment des questions de frontières, des questions qui posent des questions de frontières. Ce sont des questions de la frontière. C'est-à-dire la diversité des cultures, d'une part, et la nécessité d'une méthodologie à partir de l'empiricité du corpus à étudier.
Je pense que je vais, disons, complémenter la question d'Ivan dans le raisonnement suivant. Avant sémiotique des passions, on avait l'impression que les analyses et les descriptions des textes, etc., textes littéraires, poétiques, et même des textes visuels, etc., floches, la méthodologie descriptive et collait très, très, très bien avec les postulats de la théorie.
Oui.
Après sémiotique des passions, et même dans sémiotique des passions, les articles qui ont fait les descriptions presque n'ont rien à voir avec les premiers chapitres d'épistémologie, etc. Oui. C'est-à-dire, je pense que quand il va poser la question, avec les tournants phénoménologiques, la pratique analytique et descriptive n'a pas accompagné les propositions théoriques. Certes, on met des adjectifs là-bas, actant corporel, la chair, etc., mais ça ne donne pas une assurance, disons, de cohérence dans la théorie, en faisant une description de ce type-là. Et même chez Fontanil, il y a des textes, quand il analyse comment c'est la fable d'un œil cyclope. Et il fait toute une introduction très phénoménologique, très corporelle, et quand il se met à analyser, il analyse avec les mêmes catégories de syntaxe modale, etc. etc. Oui. Voilà, c'est ça que je pense que Yvan. Comment construire une pratique descriptive avec les avancements que la théorie a obtenus pendant les dernières années.
Voilà. Et tu as tout à fait raison, là. Absolument. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il faut plus d'intelligence et tout, alors. Hein? C'est clair qu'il faut mettre les deux ensemble, qu'il n'y a pas de méthodologie sans épistémologie, c'est-à-dire... aussi, la méthodologie est toujours à la découverte des régularités d'un corpus empirique, si vous voulez, et elle va proposer ça à la théorie, etc. Mais c'est pas, ça ne peut pas être parallèle. Il faut une dialectique entre les deux. Hein? Et la plus grande faute qu'on peut faire, c'est de regarder la sémiotique, sémiotique générale, comme quelque chose de totalement stabilisé. C'est le côté, justement, geste métaphysique, vérité majuscule. Non, tout bouge. Tout continue à bouger, on n'a aucune certitude. Hein? Donc les gens qui disent, ben, c'est ça. Et, bon, peut-être que je ne dois pas dire ça, mais Fontani, que je considère comme quelqu'un de très important, hein, lui, il se sauve, si vous voulez, de la question que toi tu poses, par la modélisation. Hein? Tout ce qu'il raconte empiriquement, si vous voulez, quand il travaille sur un corpus, hein, il traduit ça dans un modèle. Vous connaissez les modèles de Fontani, là, les petits dessins, là, sur tous les côtés, etc. Hein? C'est sa manière de sauver le corpus, par la modélisation, comme si tout était expliqué par un modèle, la modélisation. Hein? C'est une espèce de se sauver, si vous voulez, pour ne pas trop toucher à une théorie, parce que ces théories, bon... Ça, il y a des choses extrêmement... comme toute théorie, et puis comme toute épistémologie, il y a des connotations, par exemple, éthiques à chaque épistémologie. La théorie de la connaissance est toujours, a toujours des connotations éthiques et même politiques. Bon, mais... en général, les sémioticiens n'osent pas en parler, hein? Pas du tout. Presque pas, pas du tout, hein? Donc on ne touche pas, si vous voulez, à l'innocence de l'épistémologie sémiotique. Hein? Mais ça, c'est un problème général et très, très difficile. Mais en tout cas, ce qui est important du point de vue pédagogique, si vous voulez, hein, c'est tout simplement de... se défaire de l'idée que la sémiotique est une science achevée. Hein? Parce que science achevée, ça veut dire science majuscule, hein, n'est possible que sur le fond de vérité majuscule. Ça va ensemble. Et il faut avoir horreur des majuscules.
Juste une petite opinion après avoir entendu la réponse. Moi, je crois que la meilleure façon de rendre hommage au maître, c'est en les traitant sans majuscule.
Oui.
En cherchant s'il y a quelque chose qui n'a pas de réponse. C'est mon obligation de le montrer.
Oui.
Et je dois le chercher. Si je ne le trouve pas, c'est une autre chose. Je continue à répéter. Mais comme la vie bouge, la théorie bouge, je n'aime pas non plus les majuscules. Et parfois, je crois que, comment dire, quand traitant les grands maîtres par de lettres un peu en même temps, disons, je vais prétendre que je suis au niveau du maître et essayer de penser comme ça. C'est de trouver des problèmes. Je trouve que c'est peut-être comme ça qu'on doit... C'est bon, c'est pas bon pour, comme prof de faire ça. Mais dans la recherche, je ne vois pas une autre façon de le faire.
Oui. Bon, écoutez, donc, maître à penser et tout ça, on peut, pour, de ma part, on peut garder cette idée-là. C'est assez, comment dire, c'est presque psychologique, c'est existentiel. Hein? C'est clair qu'un personnage peut être imposant. Hein? Mais moi, par exemple, je ne sais pas, mais depuis que j'ai connu Guimard en 67, jusqu'à sa mort en 92, là, hein, chaque fois, j'ai vu dans Guimard un maître à penser comme une espèce de monolithe comme ça. Si un maître à penser doit être une espèce de monolithe, comme le sucre là à Rio de Janeiro, comment ça s'appelle, si ça c'est le maître, le grand monolithe, hein, ça, de plus je l'ai connu, de plus je l'ai étudié, de plus j'ai vu que les questions sont à l'intérieur chez lui. Mais il faut le lire attentivement. Il faut le lire donc vraiment dans les marges. C'est l'idée de la déconstruction, vous voyez, hein? Comme les gens comme Derrida ont introduit ces notions, déconstruire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lire dans les marges, lire les références, hein? Lire les petites lettres, les petits caractères. Hein? C'est toujours là qu'on trouve les faiblesses. Pas les faiblesses, mais ce qui ne peut pas être dit. Même l'indicible. Hein? Et c'est le cas chez Guimard aussi. Il y a chez Guimard un certain indicible, hein, qui, selon moi, il a voulu dire mais n'a pas pu dire. Hein? Et c'est déjà dans la sémantique structurale, c'est déjà dans ce livre. Hein? Quelque chose de personnel. Moi, j'avais lu Sémantique structurale en 67 en arrivant à Paris. L'année après la publication, j'avais mon vieux exemplaire que j'ai relu l'année passée en fonction de ce congrès d'Istanbul. Hein? Et comme j'ai découvert que je n'avais pas compris, mais pas du tout en 67, qu'il y avait tant de choses cachées là-dedans, tant de petites inquiétudes, des incertitudes là-dedans, que ce n'est maintenant moi-même je suis venu. Est extraordinairement vieux maintenant, hein, comme vous voyez. Exceptionnellement vieux, disons. Mais ce n'est que maintenant que je comprends cette histoire. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Donc, maître à penser, d'accord. Mais pour moi, c'est une catégorie plutôt psychologique qui est nécessaire pour faire de la bonne recherche. Il faut avoir des maîtres à penser, je trouve. Mais ces maîtres à penser, c'est aussi... Ils sont maîtres... Pour la plupart du cas, ils sont victimes de leur propre génialité.
Acho que podemos ir concluindo, né? Nós já estamos no nosso, acho que na hora prevista mesmo. É bom ter alguém pensando, né? Pensando ao vivo, refletindo, reproblematizando. Que bom. Um exercício de pensamento assim, né? Sem tantas barreiras, sem protocolos. E que beleza. Hermano, faut que tu saches combien tu nous inspires quand tu nous parles comme tu viens de nous parler. Oui. Et au nom du groupe, je te remercie infiniment pour cet exercice in vivo de pensée résonante et libre, résonante et créative. Ça nous fait le plus grand bien. Je te remercie de tout cœur. Herman Paré.
Écoutez, si vous êtes si enthousiaste, je vais revenir, hein?
Encontro marcado amanhã aqui nesta mesma sala às 2 da tarde. Obrigado, gente. Até amanhã.